Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Hier, dans les grandes gueules du sport, on écoutait Pauline Ferrand-Prévot, après son échec sur le Mont Ventoux, nous dire qu'elle n'était pas au niveau et que les autres étaient meilleurs. Que l'on croit ou non à son discours, puisqu'on vous rappelle que la Française a abandonné hier avant le départ de l'étape, elle souligne un point important, reconnaître que les autres sont meilleurs que soi. C'est de ce sujet dont je voudrais vous parler aujourd'hui, et dont je voudrais que vous parliez surtout. Est-ce que vous aussi, à un moment donné dans votre carrière, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez plus au niveau? Et comment vous l'avez vécu? Est-ce que c'est dur finalement de reconnaître ses limites et de s'y confronter, Sarah? Je sais pas pourquoi je me tourne vers toi en premier.
Bah parce que j'en ai eu beaucoup.
Des limites.
Bah des limites que je pensais être des véritables limites, parce qu'on est dans un sport où les gabarits sont différents. Donc j'ai commencé le tennis où je jouais face à Arancxa Sanchez, après Martina Hingis, et puis après sont arrivés des gabarits comme les sœurs Williams. Et effectivement, il y avait un fort décalage en termes de puissance, et convaincu que finalement, j'avais pas assez d'arguments pour. Et comme j'ai arrêté assez tôt, je suis restée là-dessus en disant, par ma petite taille, par mon déficit de puissance, il y a des choses que je pourrais pas faire. Mais en fait, en commentant beaucoup de tennis après, je me suis rendu compte qu'en fait, je suis allée trop vite en besogne. C'est-à-dire que j'aurais pu compenser. On a vu des petits gabarits.
Pardon, mais c'est pour ça que t'as arrêté?
Non, c'est pas pour ça que j'ai arrêté. Mais en tout cas, je me fixais un plafond des joueuses où.
Une croyance limitante?
Quand ça servait à 190 et moi, c'est vent dans le dos, je suis à 145, 150. Et finalement, je pouvais pas gagner des points facilement, mais il fallait que moi je bagarre sur mes jeux de service en plus des jeux de retour et que mon jeu était fait d'échanges et non pas de points rapides. Forcément, moi j'ai une dépense d'énergie et une fatigue qui s'accumule, alors qu'en face, quand j'avais Davenport qui servait ou Serena Williams les premières années, je me trouvais sans armes, et donc j'ai arrêté très tôt ma carrière. Mais en commentant du tennis par la suite, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des moyens de contrer ces choses-là, mais j'ai pas pris le temps de me remettre en question ou de retravailler certaines choses pour pouvoir essayer de minimiser ce qui était au départ un déficit, mais qui aura un moment aurait pu basculer. Je dis pas que je les aurais battus, mais en tout cas j'y serais allée avec un autre état d'esprit. Et c'est là qu'en fait je me suis fixée bêtement ou trop facilement un plafond de verre en disant mon top 30 il est déjà très bien, alors que j'ai vu des joueuses, alors je me compare pas à Justine Hénin, mais ça a été des gabarits plus petits, des Sarah Errani, des Francesca Schiavone, c'était des gabarits qui étaient plus musculeux, qui étaient plus petites, mais qui ont compensé. Et moi j'ai pas fait ce travail là parce que je pensais que j'avais pas ces armes-là à développer.
Ça a été dur justement psychologiquement pour toi de reconnaître justement que t'arrivais à une limite par rapport à ces femmes-là. Est-ce que c'est difficile de faire le constat, de l'accepter? Parce que quand je t'écoute, j'ai l'impression que ça a été difficile pour toi de le dépasser finalement, parce que t'étais persuadée que cette limite-là, tu ne pouvais pas aller au-delà.
Oui, je pouvais pas aller au-delà qu'on s'entende bien, dans les règles de l'art. C'est-à-dire que en étant propre sur toute la durée de ma carrière. En fait, non, je pense que même ça a été un échappatoire en disant je peux pas. Le plus difficile, c'est de dépasser son plafond de verre et de se rendre compte qu'on a des limites. Mais quand on se trouve des excuses, en fait, on se le met dans la tête par la suite et on a un échappatoire. Mais je regrette de ne pas avoir pris plus de risques que ça. Peut-être de m'être vraiment confrontée à mes propres limites physique et pas celle que je m'étais mise dans la tête. C'est un peu mon regret. Et je trouve que c'est beaucoup plus courageux d'aller se confronter à ses limites et d'aller au bout que de finalement s'en imposer.
David, justement, toi qui es dans un sport de...
en direct.
t'es dans un sport de confrontation directe, je le disais tout à l'heure, où tu te confrontes justement au niveau de ton adversaire dans un combat, tout simplement. Est-ce que toi, t'as rencontré certaines de tes limites pendant ta carrière?
Mais tout le temps. Tout le temps. Non, mais tout le temps. Et en fait, l'idée est, en venant en complément de ce que vient de dire Sarah, tu fais avec ce que tu as au moment où ça se passe. Je donne juste un exemple. J'ai un accident de moto après mon titre olympique de 96. là, je passe du stade d'athlète à handicapé. Et un an plus tard, jour pour jour, j'ai un titre mondial à défendre à Paris en plus. Mmh. Donc là, je me mets dans une optique de renaissance. Tu vois, c'est l'histoire du phénix, quoi. Tu vois, vraiment, je pars de zéro. Je pars même négativement pour essayer de redevenir un sportif et puis après un athlète et puis après un athlète compétitif et un athlète qui est en capacité de défendre son titre. Tu vois, il y a rien de gagné et un an c'est hyper court. Et ce qui fait que j'arrive à ces Championnats du Monde en septembre 97 et je suis à 70% de mes capacités. Mmh. Vraiment, et je le sais.
T'en as conscience.
J'y vais, j'en ai vraiment conscience. Et je me dis, bon, je vais faire avec ce que j'ai. Vraiment. Et je vais faire autrement. Parce que je peux pas faire ce que je veux. J'ai pas les outils. J'ai pas mon physique qui est là à dispo comme d'habitude. Donc j'ai adapté, j'ai changé. Et je la fais courte, mais je gagne la finale face à celui que je rencontre après aux Jeux Olympiques de 2000. Je gagne la finale, mais c'est pas une finale dont je suis fier parce que j'ai gagné avec un avantage lié à des pénalités, mais parce que je pouvais pas le faire tomber. Donc j'ai attaqué plus que lui, il a été pénalisé, il a pris une pénalité d'avance, etc. J'ai joué hyper tactique, mais pourquoi ? Parce que j'avais pas les moyens et puis ça s'est pas trop mal passé, tu vois.
Est-ce que tu as compris quelles étaient tes limites aussi ce jour-là?
J'ai pas compris, je les avais les limites, tu vois. Tu les prends en pleine poire et tu te dis bon, voilà, tu découvres ton jeu de cartes et tu dis waouh, j'ai pas beaucoup d'atouts. Il va falloir que je réfléchisse 3 minutes et que je fasse autrement et que je m'adapte. Voilà.
Tu savais malgré tout à ce moment-là que c'était ponctuel a priori dans ta carrière puisque tu étais en phase de récupération aussi après cet accident. Est-ce que t'as arrêté ta carrière toi au moment de ton titre olympique, le deuxième à Sydney, David? Est-ce que...
Mais pour les mêmes raisons.
C'est ça qui m'intéresse.
Bah oui, pour les mêmes raisons, parce que ce physique-là abîmé par un accident, après il a fallu que je le gère. Il était toujours là. Alors je suis remonté à des indices plus hauts, mais j'ai plus jamais eu le même corps. Ce qui fait que en 2000, 3 ans plus tard, j'étais au bout du bout. J'avais, tu vois, j'étais dans mon cockpit personnel et j'avais tous les voyants en rouge qui s'allumaient les uns derrière les autres. Et là aussi, et je savais que je pouvais plus aller plus loin. Il fallait que j'arrête parce que là, ça pétait de tous les côtés. Alors, j'ai donné le maximum pour cette dernière compète et ça s'est bien passé, mais j'ai risqué et j'étais sûr de rien, je vous assure. Mm-hmm. Et c'était très difficile. Mais après, je savais que je pouvais pas repartir comme ça pour 4 ans. C'était impossible. C'était déjà très juste pour cette compétition-là. J'étais limité et il faut l'admettre.
Est-ce que ça a été dur justement pour toi de l'admettre, de reconnaître
ça? Mais oui, c'est d'une injustice totale parce que toi, tu te penses éternel. Tu penses que tu vas toujours être comme ça, le plus fort, le meilleur, le machin, avec un physique que tu peux gérer, etc. Non, le physique, tu peux pas le gérer. Alors tu peux le gérer, tu peux l'optimiser, mais à un moment donné, il te rappelle à l'ordre. Il est usé, il est cassé. Il y a des cicatrices qui sont profondes et tu peux pas aller au-delà. Voilà, tu prends en pleine poire que t'es pas un surhomme en fait. Et comme t'es un compétiteur dans l'âme et que c'est ce que t'adores faire, etc. Et du jour au lendemain, tu te dis, je peux plus le faire. Et c'est affreux. C'est affreux parce que tu demanderais à un artiste, à un écrivain, à un mec qui adore son métier, que demain, t'as plus le droit de le faire parce que tu peux plus le faire. C'est ce qu'il y a de plus horrible. Et c'est ce que vivent les athlètes en général.
Et du coup, au moment où tu prends cette décision d'arrêter, est-ce qu'il y a une forme de soulagement ou au contraire t'es encore en train de ressasser ces limites qui sont difficiles à accepter?
Mais non, c'est pas le relâchement. Tu te dis c'est injuste.
Tu rumines encore.
C'est normal. Tu rumines. Mais j'ai 57 ans, je rumine encore aujourd'hui et c'est complètement idiot. Mmh. Voilà. Et si demain, je l'ai déjà dit à l'antenne, mais si demain tu as une baguette magique et tu me dis voilà, je te donne un nouveau corps et t'y vas, j'y vais tout de suite à la seconde. Parce que j'adore ça, parce que c'est dans mes gènes et que je suis limité avec ce corps là qui tient pas le choc, quoi. Et je fais avec. Oui, et c'est comme ça.
Fred, est-ce que tu as ressenti ces limites là dans ta carrière? Est-ce que tu étais confronté à certaines limites, peu importe lesquelles?
Confronté à ces limites toute ma vie, en fait. Toute ma vie de sportif, parce qu'il faut se rendre compte que j'ai un gabarit quand même hors norme, c'est moins qu'on puisse dire. À l'époque, j'étais beaucoup plus maigre, mais c'est quand même un gabarit qui était assez incroyable. Il faut se rendre compte que quand je suis arrivé au Krebs de Nancy, le coach me dit, Fred, il faut faire un tour de piste, je fais un tour de piste, j'enlève mes chaussures, je lui donne, je lui dis, écoute, j'arrête, trop dur.
Première limite, parce que
physiquement, je pouvais pas tenir plus qu'un tour que j'avais dû faire en 4 minutes. Et là, j'étais sur une limite et mon ego. Et en fait, il a su me travailler en disant, ton ego est important. Donc, tu vas pas te cantonner à avoir cette limite. Tu vas avancer et te servir de cette limite. Et à partir de ce jour-là, mon ego m'a servi dans mes limites. Je vais à l'INSEP, j'étais le plus mauvais. J'étais blessé, j'étais plus mauvais, et donc justement mon ego me disait allez, il faut que je travaille un petit peu plus dur, faut que je sois meilleur, faut que je sois plus souvent à la salle parce que je suis pas le meilleur et mes limites c'est quand je joue contre ces mecs-là, ils dominent. Donc je suis resté 3 ans, au bout de 3 ans, bah c'était plus le cas. J'arrive à Limoges dans l'équipe de 93, c'est-à-dire ceux qui sont champions d'Europe, vous savez, à jamais les premiers, c'est Limoges les premiers dans l'histoire. Et j'arrive dans cette équipe-là, la première passe que me fait Richard Dacoury, je la prends dans la tête. Je me dis qu'est-ce que je suis là? Est-ce que j'ai pas atteint ma limite de capacité de joueur de basket? Ça va à une vitesse incroyable. À la limite, je croise tout le monde au milieu de terrain tellement ils vont vite. Je sais plus quoi faire. Et là, encore une fois, c'est l'ego qui m'a permis d'avancer. Pendant toute une période, l'ego te permet d'avancer parce que justement, t'as ces capacités physiques qui augmentent. Tu travailles et t'essayes de rattraper et de combler ce retard. Mais à un moment, évidemment, ça te rattrape. Et moi, à la fin, je pouvais plus.
T'évoques justement quelque chose d'important, Fred. Tu parles de cet ego. L'ego qui est évidemment au cœur d'une vie de sportif, qui peut être, comme tu l'évoques toi, à la fois stimulant. C'est-à-dire que c'est aussi cet ego qui t'a poussé à vouloir passer au-delà de ces limites-là, de les dépasser. Et puis, il y a l'ego aussi, parfois, qui peut t'inhiber aussi, qui peut te dire tu n'es pas capable. Et comme le disait Sarah, qui te sert d'excuse aussi, quelque part.
Mais j'allais y venir, parce qu'en fait, je suis rarement d'accord avec Sarah, par définition.
Mais sur
un point, je suis d'accord. Moi, j'ai eu une limite quand je suis allé en NBA. Quand j'ai fait la Summer League de NBA, je sortais d'une énorme blessure au dos. Il faut se rappeler quand même que le professeur Saillant m'avait dit que je ne rejouerais peut-être plus au basket. Et je me retrouve à faire une Summer League, donc une ligue d'été, après avoir été drafté. Donc c'est un peu le passeport pour arriver en NBA juste après. Je suis déjà drafté, j'ai déjà un contrat garanti, mais c'est le moment de se montrer. Vu mes limitations de l'époque, ben je me suis rendu compte que ben ça allait trop vite, encore une fois avec César, et j'ai eu peur. Ouais. Et j'ai pas osé.
Mais t'as eu peur de quoi au final?
En fait, j'ai eu peur de pas y arriver. Ouais. En fait, c'était pas mon ego là qui parlait, parce que mon ego aurait dû dire ouais allez c'est un super challenge. Non, c'est la trouille. C'est la trouille. Je me suis dit, est-ce que je suis vraiment au niveau? Est-ce que je suis pas un imposteur?
Remise en question totale.
On se pose toujours ce genre de questions. Mais jusque-là, j'avais trouvé la parade en me disant, bah, je vais travailler et je verrai. Sauf que quand t'es en NBA, t'as pas le temps. Et le fait de pas avoir de temps, de pas avoir de possibilité de se replier sur soi un petit peu et de se dire, allez, je vais prendre mon temps, je vais travailler, y a pas le temps. Quand t'es à New York, t'as pas le temps. J'ai eu peur. Je suis revenu en Europe. Je le regrette. Mais voilà, il y a des moments où t'es plus faible que d'autres aussi.
Recherche plus notre zone de confort.
Exactement.
Aussi,
donc je suis revenu en France et quand un club à l'étranger m'a proposé, là aussi remise en question par contre, mais moins importante que d'aller en NBA, mais quand même, parce que quand tu vas jouer en Grèce ou en Espagne, tu joues plus comme français en fait. Tu joues comme étranger dans un club. Et donc le poids de la pression est beaucoup plus important. En fait, tu n'es plus un joueur du pays. T'es un joueur que t'as pris dans un autre pays pour le ramener jouer là. C'est une pression énorme.
Ah bon?
C'est une pression énorme. Bah, évidemment.
J'aurais cru au contraire d'être éloigné de ton
pays. Ouais.
De ton pays ou même des médias qui te suivent.
Oui, mais
du fait que tu sois un membre de l'équipe de France, t'enlèves une forme de pression.
Sarah, ils t'encouragent, ils sont avec toi, ils sont plutôt positifs avec toi. Quand t'es à l'étranger, t'es un mercenaire. T'es bon. C'est cool, t'es pas bon.
Il y a pas d'état d'âme.
T'es plus là en fait. Et là, j'ai subi cette pression. Est-ce que je suis capable de le faire? Je suis allé pour Bozidar Maković, un des plus grands clubs, un des plus grands coachs européens.
Mais on est plus méchant avec les Français en France. On est plus intransigeant.
Mais bien sûr que non. Mais c'est évidemment le contraire. C'est le contraire. Et quand on parle de la presse en France, mais j'ai envie de rire. Ouais. C'est une blague.
En Grèce, ça ne va pas la lire. Tu la comprends pas. Tranquille.
En Grèce, je dois te confirmer que je comprenais pas. Sauf que malheureusement, je parle couramment espagnol et l'espagnol, je comprenais bien. Et je peux te dire que quand ils ont envie de te massacrer, c'est pas du tout fait avec une petite serpette. Hein. Non, c'est avec la bonne serpe qui te découpe en morceaux.
Est-ce que quand tu arrives justement à Malaga, en Espagne, parce qu'on parle un petit peu des limites qu'on qu'on se pose avec soi-même, de notre corps. David parlait de son corps, etc. Il n'y a jamais eu de limite par rapport au niveau des autres, de tes adversaires aussi, de tes coéquipiers, de te faire prendre la place dans le 5 de départ, etc.
Ah mais oui, bien sûr que t'as peur, parce que quand t'arrives, c'est pas acquis. Encore une fois, quand t'es un joueur étranger, c'est pas exactement le même positionnement. Mais moi, j'ai juste un exemple très concret d'un match que j'ai fait. J'ai joué contre le baby shack grec, qui s'appelle Sophocles Chantianitis. 2m6, 156 kilos.
Wow.
Alors, concrètement, quand on me voit, on n'est pas en train de se dire si je suis un gringalet. Vraiment pas.
Non.
Sauf que là, je me suis rendu compte que mes limitations physiques étaient hyper importantes contre ce mec. Je poussais toutes mes forces, je transpirais. Le mec se retournait en me regardant en disant « Eh, moustique, t'arrêtes de me chatouiller. »
Il donnait un petit coup de coude.
Voilà, un petit coup de coude. Il allait dire « Eh, arrête un petit peu, ça me chatouille. » Et là, je me suis rendu compte de ma limitation physique et oui, ça fait de la peine. Quand on est un mec de mon gabarit, ça fait de la peine.
Mais ce n'est arrivé qu'une fois.
Non, c'est arrivé deux, trois fois, mais c'est vrai, pas extrêmement fréquemment. Ouais. Mais à ce niveau-là, se sentir un moustique, moi, waouh.
C'est vraiment parce que moi, c'était courant dans les vestiaires, en fait.
Oui, mais voilà, tu vois, en fait, on a la même problématique inversée. C'est-à-dire que toi, tu avais des limitations par ton physique parce que tu étais un peu plus petite, et moi, j'avais des limitations physiques parce que j'étais très grand, donc centre de gravité très haut, etc., etc.
Ouais, non, mais c'est sûr. Après, David, est-ce que toi, t'as eu cette, est-ce que tu sens à un moment donné, peut-être aussi, on parle pas suffisamment, mais des jeunes, la nouvelle génération qui arrive et qui pousse quand toi, t'es sur la deuxième partie de ta carrière, j'ai envie de dire, est-ce que ça peut faire peur aussi, d'avoir, ces potentielles limites qui arrivent et on vous pousse finalement un peu vers la sortie avec cette nouvelle génération de plus, meilleure de jour en jour?
Bah bien sûr, tu récupères moins, il te faut plus de temps, tu tétanises plus, enfin tu t'aperçois, t'as quand même beaucoup d'indices physiques et physiologiques qui te disent, voilà, le petit copain qui a 10 ans de moins que toi,
là ça lui, doit toucher à l'ego aussi, j'imagine.
Oui, ça touche à l'ego, puis ça te remet à ta place. Et comme le disait Fred, mais t'as d'autres armes, t'as ton expérience, l'énergie tu la gères différemment. C'est-à-dire que là où t'en mettais beaucoup avant, de manière quelquefois peut-être inutile, bah tu le fais plus. Etc. Donc ça, on arrive à peu près à équilibrer les choses, mais jusqu'à un certain moment. Il y a un moment donné, il y a trop de différences et il faut l'accepter. Mais c'est cette histoire du moustique, je reviens un petit peu sur ce que disait Fred. Je l'ai vécu aussi avec un Chinois qui faisait 2m15, 145 kilos. Et j'étais mais c'est une poupée de chiffon dans ses bras, je te jure. Un grand moment de solitude. Un grand, grand moment de solitude, je te jure. Et je me suis même vu rire pendant le combat, tellement c'était... j'arrivais même pas à l'attraper avec son allonge de titan. C'était un truc de dingue, quoi. Mais et ça fait drôle, parce que toi, quand tu... T'as pas l'habitude de vivre ça et tu le vis en direct, je peux dire. Et puis en judo, tu sais, ça dure 5 minutes le combat, donc c'est hyper rapide. Il faut que tu digères le truc tout de suite, quoi, parce que si tu le digères dans au bout d'une heure, c'est fini. Enfin, tout est fini, tout est perdu.
Oui,
mais c'est des moments de grande humilité, voilà. C'est très intéressant.
T'es dans une catégorie où forcément il y a des gabarits qui peuvent être différents.
Ah ben, il y a pas de limite.
Bah voilà, c'est ça. C'est pour ça. Sarah, cette confrontation aussi avec les autres, ce moment où tu te dis. Est-ce que c'est dur de s'avouer que l'autre est meilleur que soi, tout simplement? Est-ce que c'est dur de s'avouer ça ou finalement tu le vivais très très bien et t'avais pas de soucis justement d'ego dont on parlait à te dire
Non, c'est difficile et ce que je répète, que j'arrête pas de répéter depuis des années dans le tennis, c'est qu'on perd une fois par semaine. Et donc ce côté de la défaite, si tu ne sais pas vivre avec la défaite, si tu ne sais pas la ranger quelque part et en tirer quelque chose de positif, le tennis est un sport qui est difficile à vivre. Je répète et je me répète souvent dans la sémantique, c'est-à-dire que même quand tu fais un super tournoi, t'es top 30, je suis top 30 et j'arrive en finale d'un tournoi, quand tu rentres, qu'est-ce que t'as fait? Tu dis pas j'ai fini deuxième. Tu dis j'ai perdu en finale. Et donc en fait cette sémantique, moi elle a été mais tellement pesante, je m'en suis rendu compte après, mais en fait cette sémantique de la défaite, je vivais tout le temps. Donc en fait la défaite accumulée, la défaite faisait que ça me rendait malheureuse alors qu'il y avait des résultats et que je tirais bénéfices de mon physique.
Comment ça se passait quand tu perdais contre une adversaire chaque fois que tu l'affrontais, tu pensais que c'était perdu direct ou
les toutes meilleures, oui, quand tu joues une top 5 ou une top 10 mondiale, j'en ai battu deux ou trois dans ma carrière, mais c'est vrai que bon, t'y penses pas quand tu rentres sur le court, mais bon, quand tu sors, j'ai envie de dire, il y a une forme de logique qui s'installe.
Donc quand tu rentres, t'y penses pas, et au contraire, c'est peut-être une source de motivation, et après, c'est un peu une excuse.
Bah, c'est une excuse, oui. Et puis alors, quand je rentrais sur... C'est pour ça que je parlais ça tout à l'heure. Quand je rentrais sur un cours central, quand je rentre sur le cours central de l'Open d'Australie, qui fait 50 à l'ombre, je joue l'Lindsay Davenport, qui fait 1m98, que Autos... T'as donc l'adversaire, l'arbitre, et toi, déjà, pour la photo, tu essaies de t'écarter un peu, tu vois, et déjà que le cours, la dimension du cours est le même, mais la surface du cours est plus grande. Je me sentais perdue. Et ma plus grande peur, c'était de faire 1, 2, 3, 4-0 et de commencer à jouer à 4-0 ou à 5-0 et d'être là à courir après. Et donc, j'avais envie de me mettre dans un trou de souris. C'est pour ça que je disais de jouer plus souvent sur les grands cours permet d'appréhender. À chaque fois que j'ai joué sur un cours central, en fait, j'avais une sorte de chape de plomb sur mes épaules parce que j'en ai pas assez joué ou parce que je le préparais pas assez, en fait, au final.
On va juste terminer parce que j'entendais David réagir quand je te posais la question, Sarah, sur est-ce que c'est difficile d'admettre que l'autre est meilleur que soi. Est-ce que ça t'est arrivé, ça aussi, David?
Personne n'est meilleur que David Douillet.
Ouais, c'est ce que j'ai posé quand même.
Non,
comment tu peux poser cette question à David?
Non, mais tu vois, quand j'étais junior, je me faisais éclater, hein, éclater par les meilleurs mondiaux, le champion olympique, le champion du monde de l'époque, etc., etc. Puis un jour, j'en ai battu un. C'était au Toit de Paris, au premier tour du Toit de Paris, je rencontre le champion olympique en titre, qui était un Coréen, et je le bats,
à plat de
vraiment au bout. Non, justement, j'ai ramé comme un malade et tout. Et j'ai tellement ramé, j'étais tellement cuit que après je l'ai battu, mais après c'était fini. J'avais tout donné et je me suis fait exploser les combats qui ont suivi. Mais par contre, je me suis dit une chose, et ça a été un vrai déclic. Je me suis dit bon, j'arrive à battre un mec de ce niveau. Si j'ai la capacité physique de le battre et de pouvoir récupérer et d'en battre un autre et un autre et un autre, là, ben, je peux être le meilleur.
Et ça change.
Et j'ai
tout.
Travaillé comme ça.
Et oui, et ça change tout après dans le mindset avant d'aborder évidemment les prochains combats. Merci beaucoup les GG de vous être confiés sur vos limites, sur l'acceptation aussi de ces limites qui sont parfois difficiles quand on est un sportif de haut niveau.